Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'une heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission et les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. Une heure par mois pour être touché, ému, ou réfléchir et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur. Et aujourd'hui, nous recevons Ludovic Lavarlechère pour son livre publié chez L'Harmattan dans la collection Éducateurs et Prévention, L'insertion professionnelle face au handicap psychique et mental. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Alors Ludovic, vous êtes titulaire d'un master en sciences de l'éducation et également d'un diplôme d'état d'ingénierie sociale.
C'est bien ça.
Voilà, donc vous êtes, un spécialiste, donc de l'action sociale et surtout médico-sociale. Et en fait, je dirais, votre cheval de bataille, c'est l'insertion professionnelle.
C'est ça. Donc j'ai développé une expertise, on va dire, du handicap suite à une reconversion professionnelle. Auparavant, je travaillais en entreprise en tant que manager opérationnel dans la grande distribution spécialisée et la restauration rapide. Et puis, un jour, j'ai eu un accident de travail. Ce qui m'a fait me poser un certain nombre de questions sur le traitement du handicap en France. J'ai été confronté moi-même à un certain nombre de difficultés qui m'a fait prendre conscience des enjeux du handicap et la reconversion professionnelle m'a permis d'entamer des études et d'effectuer une recherche sur cette question.
Vous avez fait d'ailleurs, je crois, des études auparavant.
Auparavant, je suis diplômé de l'école de commerce de Rouen, oui. Qui appartient au groupe Neoma désormais. J'ai fait une classe préparatoire HEC sur Versailles. Et donc, j'ai exercé pendant 15 ans dans la grande distribution spécialisée.
D'accord, donc vous êtes passé de la grande distribution spécialisée à l'éducation spécialisée.
Exactement. Alors, effectivement, c'est un grand saut que j'ai effectué. Mais je regrette pas du tout, hein, parce que lors de ma reconversion, j'avais envie de servir l'intérêt général et je m'intéresse beaucoup aux sciences humaines et à la recherche. Donc c'était l'occasion inespérée pour moi de pouvoir intégrer ce milieu et apporter ma contribution aux questions qui se posent dans le secteur social et médico-social.
Alors bon, on peut dire peut-être aux auditeurs. Sans tout révéler de nos relations, que je vous ai rencontré alors que vous étiez en cours de formation pour votre diplôme d'état d'ingénierie sociale.
C'est bien ça.
Que j'ai pu suivre un petit peu l'évolution de votre travail intellectuel et que suite en fait à la rédaction de votre mémoire de fin d'études, eh bien nous avons convenu, vous et moi, d'aller vers la publication de ce livre.
C'est ça, et je vous en remercie beaucoup. C'est vraiment une chance qui m'est donnée. Et à ce titre, je vous suis très reconnaissant.
Alors donc, pourquoi la question du handicap psychique et mental pour vous ? parce que vous auriez pu vous intéresser à bien d'autres questions et pas simplement la question spécifique de ce type de handicap.
Déjà, c'est une question qui est fortement d'actualité. Je rappellerai que 80% des handicaps sont invisibles dans le monde de l'entreprise. C'est une forme de handicap qui a tendance à se développer de plus en plus, hein, avec les contraintes que fait peser le travail sur les individus. Et c'est une question qui touche non seulement les personnes en situation de handicap, mais qui peut toucher tout un chacun au quotidien. On n'est pas à l'abri. Et il me semble que il est important d'aborder cette question de manière tout à fait claire et transparente et de ne pas se réfugier dans des faux-semblants. Voilà. Et puis, le sujet m'intéressait en lui-même. Hein, le sujet du handicap m'intéresse de manière générale. Mais c'est l'actualité du handicap psychique qui m'a poussé à traiter cette question.
D'accord, parce que vous avez rencontré ces questions-là dans l'entreprise quand vous y étiez ?
Alors, à titre personnel, je me suis posé la question si à un moment donné, je n'avais pas été confronté personnellement à une situation de handicap face au stress que je pouvais rencontrer. Il me semble que j'ai vécu une situation de ce qu'on appelle communément le « board out ». Mais je n'en suis pas sûr, hein. je ne suis pas médecin, mais en tout cas, moi, j'ai eu une période qui a été assez difficile pendant ma carrière professionnelle. J'avais du mal à évoluer, etc., et je me posais un certain nombre de questions. Alors, est-ce que c'était du handicap psychique ? Les contours du handicap psychique sont assez difficiles à définir, et aujourd'hui, je n'ai pas encore la réponse. Bon, je n'ai pas consulté pour ça, mais... Mais en tout cas, j'ai été sensible à cette question-là pour avoir eu le sentiment, à titre personnel, d'y avoir été confronté.
D'accord. Mais là, vous parlez, vous, de limites que vous avez pu ressentir liées au stress ou à l'abus de travail, si j'ose dire. Mm-hmm. Mais est-ce que vous avez, vous, dans votre relation de manager, rencontré des salariés qui étaient, eux, en situation de handicap, qui avaient des difficultés psychiques?
Il est bien difficile de répondre à cette question, parce que souvent, les personnes qui sont en situation de handicap psychique, le handicap psychique représente pour eux une difficulté difficile à exprimer. Et certainement que j'ai rencontré des travailleurs en situation de handicap psychique, mais malgré tout, je n'en ai pas forcément pris conscience en tant que manager. Aujourd'hui, je sais que si je travaillais de nouveau dans cet univers de la grande distribution, je me poserais beaucoup plus de questions et j'essaierais d'être beaucoup plus attentif à la situation des personnes que j'encadre.
Est-ce que vous êtes en train de nous suggérer que finalement, les hommes s'adaptent à leur milieu en fonction des capacités qui sont les leurs ?
C'est-à-dire
qu'en fait, on fait en fonction de son intelligence, de ses ressources et de ses difficultés.
Oui, qui ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Hein. Il n'est jamais évident de parler de ses faiblesses dans le travail. Et je gage qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes peinent à s'exprimer sur ce sujet.
Très bien. Donc, en fait, ce livre, l'insertion professionnelle face au handicap psychique et mental. Donc là, il est vraiment ce livre centré sur la question de l'insertion professionnelle de personnes qui sont reconnues avec un handicap. Alors, donc, est-ce que votre intention de travailler sur ce thème était complètement liée à votre ancienne expérience professionnelle ou est-ce que c'était en rapport avec des stages que vous auriez pu faire, éducation spécialisée ?
Non, ça a été d'abord une intuition et forcément mon expérience professionnelle a eu un impact sur ma décision de traiter de ce sujet-là et notamment, comme je l'évoquais au départ, les freins que j'ai rencontrés moi-même, puisque j'ai obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé. Et donc, j'ai dû faire valoir mes droits et affronter l'imbroglio administratif qui entoure la question du handicap. Donc forcément, j'ai rencontré des difficultés et oui, mon ancienne expérience professionnelle m'a conforté dans l'idée de traiter de cette question.
D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, vous êtes, en situation de travailleur indépendant. Vous travaillez avec un statut libéral.
C'est bien ça.
Hein, vous travaillez donc comme chercheur indépendant.
Exactement.
Voilà. D'ailleurs, je crois savoir que mardi prochain, vous êtes dans une grande manifestation où il y aura à peu près 600 directeurs des ZAT.
C'est ça. Je vais participer à l'invitation de Gérard Zribi aux rencontres nationales des directeurs d'établissements d'aide par le travail. Voilà, qui sont des rencontres qui se déroulent chaque année, qui proposent à des directeurs des ZAT, mais également à des décideurs publics de participer, d'échanger sur la question du handicap. Cette année, le thème sera justement l'insertion professionnelle des travailleurs des ZAT.
D'accord. C'est vraiment une question d'actualité ?
C'est une question plus que d'actualité, puisqu'aujourd'hui, on compte près de 500 000 travailleurs en situation de handicap en France.
Oui.
Seulement 1% de travailleurs sont embauchés en milieu ordinaire, ce qui représente une à deux personnes par an et par établissement. Donc il y a énormément de travail à faire.
Et pourquoi alors ? Pourquoi cette difficulté à l'embauche ?
Alors les origines de ces difficultés sont diverses et variées. Je pense que dans la manière de traiter l'insertion professionnelle des personnes handicapées, il y a deux visions qui s'opposent. La vision des entreprises et par la même occasion des pouvoirs publics, et la vision du secteur protégé, qui est davantage centré sur l'accompagnement de la personne, donc sur l'humain, tandis que les entreprises considèrent le handicap souvent comme un coût, voire un surcoût, et donc freinent un peu leur engagement vis-à-vis de l'insertion, ou en tout cas vont traiter l'insertion des personnes handicapées de manière différente, c'est-à-dire plus en relation avec la stratégie d'entreprise, plus que sur le côté humain de la question.
Et pourtant, il y a des aides d'État et à contrario, il y a également des pénalités si on n'est pas dans un certain pourcentage d'embauche.
Hein, alors c'est ça, il y a surtout des sanctions et c'est peut-être là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'en France, on est dans une logique coercitive,
ouais,
où on va obliger les entreprises à embaucher un certain pourcentage de personnes en situation de handicap, pour être exact, 6% de leur effectif.
D'accord.
Mais malgré tout, les entreprises vont chercher à se conformer à cette obligation sans forcément investir de manière proactive dans l'intégration des personnes handicapées.
Ok, mais s'il n'y avait pas cette contrainte, est-ce que les entreprises embaucheraient
Rien n'est moins certain.
D'accord. Donc en fait, c'est un problème bilatéral, quoi. C'est pas simplement du côté de l'État, c'est aussi du côté des entreprises qui voient pas forcément leur intérêt à embaucher des personnes reconnues avec un handicap.
Bah, comme je l'exprimais tout à l'heure, le handicap, au-delà des représentations qu'il peut susciter, qui sont toujours présentes dans l'esprit de certains employeurs, le handicap fait peur. Parce que le handicap psychique, en l'occurrence, est plutôt méconnu. Hein. On ne connaît pas très bien, enfin en tout cas les employeurs ne connaissent pas très bien les conséquences des troubles psychiques.
Ouais.
Et le handicap psychique est la conséquence de ces troubles. Et souvent, la peur de la maladie empêche les employeurs d'investir, en tout cas, comme je le disais, de manière proactive sur cette question.
Alors, avant qu'on fasse une première pause, à partir de quel moment dit-on qu'une personne est confrontée à un handicap psychique ? Est-ce qu'il y a des normes ? Est-ce que c'est lié au coefficient intellectuel ? Qu'est-ce qui permet de dire qu'on a un handicap psychique ?
Alors, il faut bien différencier, puisque mon livre traite de ces deux questions, hein, du handicap mental et du handicap psychique. Le handicap mental, généralement, apparaît dès la naissance. Il s'agit généralement d'un dysfonctionnement intellectuel, d'un manquement intellectuel. Alors que le handicap psychique émerge principalement à l'adolescence et se traduit par une forme d'instabilité, de la personne qui a du mal à communiquer avec son environnement et connaît des troubles de la relation. Donc d'un côté, le handicap mental est relativement stable, tandis que le handicap psychique est plutôt instable et nécessite la prise de médicaments pour pouvoir permettre à la personne d'interagir avec son environnement et de pouvoir s'insérer dans la société.
D'accord, donc c'est assez complexe. Nous allons d'abord faire une pause musicale et nous nous retrouvons ensuite pour essayer d'approfondir ces questions avec Ludovic Lavarlocher.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Vous êtes bien sûr Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur. Et je reçois aujourd'hui donc Ludovic Lavarlocher pour son livre « L'insertion professionnelle face au handicap psychique et mental » paru aux éditions L'Harmattan. Alors Ludovic, si on prend les questions maintenant du côté des compétences, hein, des compétences, quels sont les enjeux donc, pour les personnes qui sont confrontées à l'insertion professionnelle ?
Bien, l'enjeu principal du côté des compétences est la manière dont elles se construisent pour permettre aux personnes en situation de handicap psychique et mental de s'insérer en milieu ordinaire de travail. Et là-dessus, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs semaines au sein d'un établissement, une structure hybride qui accueillait à la fois des personnes en situation de handicap mental au sein d'un ESAT, un établissement de services et d'aide par le travail, et parallèlement des jeunes en situation de handicap psychique qui, eux, étaient pris en charge par ce qui était appelé dans cet établissement le centre d'adaptation à la vie active. Et l'idée de cet établissement est de faire cohabiter des personnes en situation de handicap psychique et des personnes en situation de handicap mental de manière à ce qu'elles à ce qu'elles puissent interagir l'une et l'autre et à travers le vivre ensemble, pouvoir retrouver le goût du travail. Aujourd'hui, la question que je me suis posée en écrivant ce livre, c'est comment les compétences travaillées en établissement d'aide et de services par le travail pouvaient permettre à ces personnes d'intégrer le milieu ordinaire de travail. Il se trouve que j'ai été confronté à deux logiques complètement différentes, celle du milieu protégé et celle des entreprises. Aujourd'hui, le milieu protégé, selon mon point de vue, fonctionne en vase clos et les compétences peinent à être travaillées au sein des ateliers pour diverses raisons sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard, tandis que les entreprises, comme je l'évoquais auparavant, ne traitent pas la question de l'insertion professionnelle des personnes handicapées de la même manière. Souvent, elles répondent à des injonctions publiques qui leur enjoignent d'embaucher un certain quota de travailleurs handicapés, mais il n'y a pas de véritable réflexion et d'inscription dans la stratégie de l'entreprise sur la manière dont doivent être accompagnées les personnes et surtout dont pourraient s'exprimer les compétences travaillées en milieu protégé. Aujourd'hui, chacun sait que les entreprises ont la possibilité, pour répondre à leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés, de faire appel à la sous-traitance. Et c'est souvent la relation qui lie les entreprises au secteur protégé. Les travailleurs en ESAT vont effectuer des tâches standardisées en atelier pour pouvoir répondre à des commandes des entreprises, qu'on appelle donneuses d'ordre. Et souvent, ça se passe au détriment de la construction des compétences. C'est-à-dire qu'il y a un tel impératif de cadence et de qualité exigée par les entreprises que finalement, on en oublie de travailler les compétences individuelles en milieu protégé.
C'est-à-dire qu'en fait, la productivité domine, c'est ça ?
La productivité domine et dénature la mission première de l'établissement.
D'accord. Alors qu'en fait, il y a les travailleurs dits handicapés peuvent avoir des compétences extrêmement intéressantes pour l'entreprise.
Les travailleurs handicapés sont compétents, et c'est d'ailleurs le principe de la loi du 2 janvier 2002 sur la rénovation de l'action sociale et médico-sociale, qui stipule que la personne est compétente et peut construire un projet de vie, un projet professionnel, et qu'il faut pouvoir l'accompagner dans un environnement sécurisant. Ça, c'est l'esprit de la loi du 11 février 2005. Mais en tout cas, oui, on part du postulat que la personne est compétente.
Ok. Alors peut-être que
à divers degrés, d'ailleurs.
Très bien. Je vous ai peut-être interrompu dans votre déroulé, mais comme ça, d'emblée, ce qui me semble, c'est qu'il y a deux points de vue irréconciliables entre l'entreprise et le milieu protégé.
Alors aujourd'hui, je ne dirais pas irréconciliable, mais difficilement conciliable.
Ouais.
Je ne perds pas espoir. Je pense qu'il y a matière à développer des environnements capacitants et l'entreprise, au-delà de son rôle traditionnel et historique d'insertion, gagnerait à développer des environnements capacitants pour la personne de manière à ce qu'elle puisse exprimer les compétences travaillées en milieu protégé, voire les développer en entreprise.
Mmh. Et si j'entends bien, vous, votre travail, c'est celui de trait d'union entre ces deux univers.
C'est ça, créer des ponts entre le milieu protégé et le milieu ordinaire de travail.
Ok, alors est-ce que vous avez une stratégie là pour vous y prendre, pour essayer de résoudre un peu les problèmes sociétaux ?
Alors aujourd'hui, déjà, je pense qu'il faut que les professionnels du secteur protégé et ceux de l'entreprise se mettent autour d'une table et discutent sur la meilleure manière d'accompagner la personne une fois qu'elle a réussi à intégrer l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une méfiance entre les deux univers, protégé et milieu ordinaire. Les entreprises se méfient du handicap par la méconnaissance qu'ils ont de la maladie, en tout cas le handicap psychique. Elles se méfient de la manière dont sont construites les compétences en milieu protégé. Et de l'autre côté, le milieu protégé méconnaît souvent l'entreprise. Lorsque j'ai passé du temps au sein de l'établissement, la politique était de par atelier de pouvoir avoir un moniteur d'atelier et un éducateur spécialisé pour travailler différents types de compétences. Le problème, c'est que l'entreprise étant donneuse d'ordre, la productivité a souvent pris le dessus sur ce qui était travaillé en atelier. En fait, il faut revenir sur une chose. Au départ, la vision qu'ont les personnes en situation de handicap du milieu ordinaire de travail. Souvent, les personnes que j'ai pu rencontrer désirent ardemment intégrer le milieu ordinaire de travail. Mais beaucoup reviennent parce qu'elles ont vécu des expériences traumatisantes en entreprise, ce qui constitue pour elles un échec. J'ai pu constater en ESAT que beaucoup d'entre elles exprimaient l'envie de travailler en milieu ordinaire de travail, mais idéalisaient quelque peu le monde de l'entreprise au même titre que les professionnels qui participaient de cette idéalisation du monde de travail. Mmh. C'est comme s'il y avait d'un côté l'activité en milieu protégé et un travail idéal en milieu ordinaire, en milieu ordinaire où le travail constituerait un vrai travail, ce qui ne serait pas le cas en milieu protégé. Mmh. Et donc cette forme d'idéalisation du travail par les usagers du milieu protégé peut constituer un frein à une intégration réussie lorsqu'elle...
Alors quand je vous entends, je fais des associations libres et je me dis que c'est peut-être un problème très français. Je pense au monde de l'éducation nationale par exemple. Et de l'entreprise, qui ont l'un sur l'autre des représentations extrêmement figées. Dans l'éducation nationale, on considère l'entreprise un peu comme le monstre qui ne doit pas entrer parce que ça pourrait contribuer à modifier les contenus d'enseignement, etc. Et puis d'autre côté, dans l'entreprise, on a beaucoup de suspicions pour tout ce qui sort de l'éducation nationale, y compris de l'enseignement supérieur, avec des diplômes dont on se demande s'ils sont vraiment adaptés aux tâches qu'on veut voir effectuer. Est-ce que cette dichotomie des univers, c'est quelque chose qui est également très fort? C'est ce que j'entends, moi, de ce que vous dites entre l'entreprise et le milieu protégé.
Oui, il y a une dichotomie très forte. Déjà, l'expérience pour pouvoir décrocher un travail en entreprise est très importante. Or, les usagers en milieu protégé n'ont pas toujours l'occasion d'effectuer des stages en entreprise. Et lorsqu'ils ont la possibilité de le faire, l'encadrement n'est souvent pas adapté. Les managers d'entreprise ne sont pas spécialement préparés à accueillir des personnes en situation de handicap, alors que le handicap peut être une ressource pour l'entreprise. Et ça, on ne le dit pas assez souvent.
Pourquoi une ressource?
Une ressource pour l'entreprise parce qu'elle permet à l'entreprise, je peux prendre quelques exemples, de réfléchir sur l'organisation du travail, la flexibilité du travail. Ce qui peut être adapté à des personnes en situation de handicap peut être adapté à tout un chacun. Et donc, ça pousse les managers à réfléchir à leur manière d'encadrer leurs salariés et de pouvoir offrir des conditions de travail optimales.
Ok, par exemple sur les questions d'ergonomie, c'est ça par exemple?
Sur les questions d'ergonomie, sur les innovations qui peuvent être réalisées en entreprise, qui bénéficient aux personnes en situation de handicap, mais bénéficient à l'entreprise son ensemble.
Sur les rythmes de travail, sur la chronobiologie, etc.
C'est ça, exactement.
D'accord, donc en fait, ce que vous dites, c'est que le monde entreprise est un peu autiste, c'est ça? sur les aspects d'inclusion?
Oui, je pense qu'il y a un petit peu de cela. Alors, est-ce que c'est un manque de volonté parce que le handicap, justement, constitue un frein pour l'entreprise en matière de ce qu'elle pense de rentabilité? Certainement. Moi, je pense que il y a vraiment un effort à faire du côté du secteur protégé et des entreprises pour se rencontrer réellement et pas uniquement garantir une relation qui permettrait à des usagers du secteur protégé d'obtenir un stage en entreprise, mais d'aller beaucoup plus loin et permettre aux moniteurs d'atelier d'accompagner les personnes en situation de handicap en entreprise et de se rendre compte par elles-mêmes des difficultés que cette personne peut rencontrer. De la même manière, les entreprises devraient se rapprocher du milieu protégé et voir comment ça se passe en atelier de production dans un ESAT, voir comment les compétences sont travaillées, qu'est-ce qui fait défaut, qu'est-ce qu'il faudrait apporter de plus pour que l'intégration se fasse au mieux. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les ateliers protégés, il y a souvent les moniteurs d'ateliers et les éducateurs spécialisés, méconnaissant souvent le monde de l'entreprise, vont inculquer des apprentissages aux personnes en situation de handicap qui sont pour le moins décalées, c'est-à-dire qu'ils vont leur apprendre des codes sociaux indispensables pour intégrer l'entreprise, comme être ponctuel, arriver à l'heure, etc. Mais souvent, ça donne lieu à des formes d'infantilisation et de surprotection. C'est-à-dire qu'on va, pour prendre un exemple, j'ai assisté une fois à une scène qui m'a paru quelque peu étrange, où un moniteur d'atelier, ne voyant pas un des usagers arriver pour effectuer sa journée de travail, l'a contacté par téléphone et cette personne avait décidé de ne pas venir travailler. Ou plutôt, elle était en retard pour arriver sur son lieu de travail. Et ce qu'a trouvé à redire le moniteur d'atelier, bon, il lui a dit, restez chez vous, et puis ça vous apprendra quelle posture il faut avoir pour pouvoir intégrer le milieu professionnel en milieu ordinaire. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne a accepté cette sanction. Donc il y a eu une forme de déresponsabilisation et elle s'est finalement elle s'est contentée de cette sanction sans aller au-delà et pour moi c'est contre-productif. Mmh. Ça ne lui permet pas de prendre la mesure de la posture qu'elle doit avoir pour intégrer le milieu ordinaire de travail. Ouais. Donc il y a une forme d'infantilisation et parfois de surprotection des usagers et de codes sociaux qui sont indispensables pour intégrer le monde de l'entreprise. Mmh. Il y a une posture à avoir, une posture professionnelle. Mais j'avais le sentiment que finalement ces codes sociaux prédominaient sur le travail des compétences. Ouais. Qui leur permettrait d'intégrer durablement l'entreprise.
Mmh. Oui, il y a vraiment une fracture entre le monde de l'éducation spécialisée avec des éducateurs qui sont dans une posture éducative et qui sont à distance des questions de professionnalité telles qu'elles se posent dans le monde de l'entreprise, quoi.
C'est ça. Et pourtant le directeur d'établissement avait pour ambition de constituer un binôme en atelier, comme je disais, de moniteurs d'atelier issus du monde de l'entreprise, soi-disant issus du monde de l'entreprise. Mais lorsque je les ai interviewés, je me suis rendu compte que leur connaissance était partiale, voire partielle, en ce qui concerne la réalité du travail en entreprise.
Très bien. Nous faisons une pause musicale et nous retrouvons ensuite Ludovic Lavard-Lecher pour voir un peu comment désaliéner ce monde du travail.
Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. À lancer cailloux sur les temps, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Ses doigts se dénouent comme le front avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers, et les secrets, j'en dirai, j'en dirai. Oui, pour passer le temps, je chante, au violon s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets, et que mon amour est touchante. Près de moi, dans l'ombre penchante, oui, pour passer le temps, je chante. Je chante pour passer le temps, oui, pour passer le temps. Je chante.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission de Pascal Lerest, un livre, un auteur. Et nous en venons maintenant à la rubrique des livres du mois. Et ce mois-ci, les quatre livres que j'ai retenus pour vous sont les suivants. Le premier de Dominique Joss, « Penser sa vie avec les philosophes » de Descartes à Nietzsche, publié chez L'Harmattan dans la collection « Pour comprendre ». Alors c'est un livre très très pédagogique que je vous conseille vraiment. C'est pas toujours simple de lire des livres de philosophie et d'entrer en fait dans les univers de pensée des grands auteurs. Et là en fait on entre assez paisiblement dans les systèmes de Kant, d'Hegel, on chemine également avec Descartes, et on finit avec Schopenhauer, Friedrich Nietzsche. C'est un livre assez accessible, et je dirais que pour ceux qui veulent avoir un peu une vision progressive de l'histoire de la pensée en Occident, c'est vraiment le livre qui convient. Donc j'en rappelle son auteur, Dominique Joss, qui a été professeur de philosophie, directeur d'établissement et qui aujourd'hui se consacre donc à l'écriture et qui publie dans la collection Pour comprendre chez L'Harmattan. Un deuxième livre, un livre de Manuel Diatkin dans la collection Questions contemporaines chez L'Harmattan. Donc, Pierre-André Taguieff, « L'antiracisme en débat ». Alors là, c'est vraiment un livre qui est plus abscon, si j'ose dire, qui est vraiment intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la question du racisme et surtout de comment le déconstruire. Et qui fait une sorte de parcours comme ça, géographique, sur toutes les questions qui se sont posées dans l'histoire et dans le monde sur ces enjeux-là. Donc un livre, donc comme je disais, qui n'est pas très facile d'accès, mais qui est vraiment une source intéressante pour comprendre en fait les enjeux autour du racisme et puis aussi de sa déconstruction. Donc de Manuel Diatkin, Pierre-André Taguieff, l'antiracisme en débat, de chez L'Harmattan dans la collection donc Questions contemporaines. Alors ensuite, un livre pour frissonner, les stratégies de la peur dans le cinéma d'horreur, d'Étienne Janot dans la collection Champs visuels chez L'Harmattan. Donc si vous avez peur quand vous allez voir un film d'horreur ou un film fantastique, eh bien, pour tout savoir, il suffit de vous plonger donc dans ce livre qui décode en fait toutes les compétences qui sont déployées pour faire frissonner donc le spectateur. Alors on passe de Kurosawa à Michael Myers. On va donc dans le cinéma des années 1950 jusqu'au film Freddy ou La colline à des yeux, les grands succès du cinéma d'horreur actuel. C'est donc un livre passionnant parce qu'il nous emmène dans un univers qui est peu décrypté. et donc qui est tout à fait passionnant. Et voilà, on a une façon en tout cas de défier l'horrifique. Les stratégies de la peur dans le cinéma d'horreur d'Étienne Janot chez L'Harmattan. Et puis, pour finir, un roman de Nicole Dupont-Pierrard, La princesse d'Aigueperse, dame d'honneur d'Anne de Bretagne, dans la collection Romans historiques chez L'Harmattan. C'est un livre très intéressant. Donc, Nicole Dupont-Pierrard est docteur en histoire. Elle a été professeure de lettres. Elle a fait des études également en langue italienne. C'est une personne tout à fait érudite et c'est un livre vraiment séduisant qui nous conduit de l'Italie à la France à la fin du Moyen Âge et qui nous montre en fait les us et coutumes dans les différentes cours. La princesse d'Aigueperse, dame d'honneur d'Anne de Bretagne, de Nicole Dupont-Pierrard. Je vous conseille de le lire, c'est un roman tout à fait fabuleux, chez L'Harmattan. Nous faisons une pause musicale et nous retrouvons tout de suite Ludovic Laverlochère. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel avec Pascal Lerest dans l'émission Un livre, un auteur qui reçoit aujourd'hui Ludovic Laverlochère pour son livre L'insertion professionnelle face au handicap psychique et mental. Alors Ludovic, nous sommes entrés là dans votre thèse et dans ce que vous cherchez à mettre en évidence. Il faut peut-être dire aux auditeurs que vous avez conduit un certain nombre d'entretiens, que vous avez une connaissance aussi très directe par le rapport que vous avez pu entretenir avec les gens des différents milieux que vous avez déjà évoqués à l'antenne. Alors, que pouvez-vous nous dire de ce que vous ont apporté ces entretiens ?
Alors, effectivement, j'ai rencontré des usagers de l'établissement et également des professionnels du milieu ordinaire de travail pour comprendre un petit peu ce qui se jouait en matière d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique et mental. Pour prendre un exemple, j'ai rencontré un responsable de l'UNIR, l'Union pour l'insertion et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées. Et il m'a expliqué de son côté, il travaille fréquemment avec les entreprises, et il m'expliquait de son côté que des pratiques de démarchage commercial commanditées par le milieu protégé étaient souvent vécues par les entreprises comme des moyens de pression relevant du registre de la pitié. Donc là, ça illustre bien la méfiance qu'ont les entreprises vis-à-vis du milieu protégé. En plus de ça, les entreprises se méfient souvent de l'avenir. Avec la mondialisation, le travail est devenu de plus en plus contraignant et les objectifs de l'entreprise, en tout cas les résultats attendus, de plus en plus incertains. Et la gestion des ressources humaines est devenue un facteur clé d'intégration. On a assisté à la mise en place de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui traduisent cette méfiance que nourrissent les entreprises vis-à-vis de l'avenir, cette volonté de gérer les ressources humaines. Et donc lorsque des personnes en situation de handicap psychique sont amenées vouloir intégrer le milieu ordinaire de travail, ça ne les rassure pas forcément, puisqu'il faut pouvoir composer avec la maladie de la personne et pouvoir l'encadrer correctement de manière à assurer la rentabilité de l'entreprise, que la personne soit en situation de handicap ou pas. On ne peut pas enlever à l'entreprise sa mission première qui est d'être rentable, de la même manière qu'on ne peut pas ôter au milieu protégé sa mission qui est d'accompagner les personnes de la meilleure des façons possibles. Je me suis rendu compte aussi que les entreprises, je parlais de méfiance, mais le concept de responsabilité sociale et sociétale des entreprises est également quelque peu dévoué. C'est-à-dire que la responsabilité sociale et sociétale des entreprises a tendance à être une réponse aux parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaires, et elle constitue un moyen de redorer l'image de l'entreprise. On voit bien là que si responsabilité sociale et sociétale des entreprises il y a, elle ne se fait pas en faveur d'une intégration des personnes en situation de handicap, bien que la RSE puisse couvrir différents domaines, hein, l'environnement, etc. Mais là, je m'intéresse principalement à la question de l'intégration. La RSE va constituer pour les entreprises une façon de véhiculer une image positive et un engagement qui, en fait, n'en est pas réellement un. Pardon. Donc, toutes ces observations m'ont conduit à avancer l'argument que les personnes en situation de handicap se retrouvaient dans une forme de liminalité, c'est-à-dire un entre-deux. Alors, pour définir la liminalité, en fait, il s'agit d'une situation de seuil dans laquelle l'individu flotte dans les interstices de la structure sociale. Les obstacles, les barrières qu'il rencontre sur son parcours, délimitent des espaces au sein desquels les personnes handicapées trouvent néanmoins un accueil socialement conçu comme bénéfique.
C'est Jolien, non, qui avait défini le principe de liminalité, non ?
Alors, ce principe est né d'abord des analyses de Arnold van Gennep,
d'accord,
qui a travaillé sur les rites de passage.
Oui.
Il distingue trois phases bien identifiable. Mmh. Alors, les rites de passage, ça peut être un mariage, une naissance, mmh, etc.
Rite d'intégration ou rite de séparation.
Et donc, il distingue trois phases bien identifiables qui sont le détachement,
okay,
du groupe,
mmh,
puis une situation de seuil,
mmh,
qui peut être traduite par un état en suspension, mmh, où la personne se retrouve sans statut, ni statut positif, ni statut négatif, mais en tout cas opère un changement profond, une transition,
mmh,
et puis une étape de réintégration dans le groupe. Et donc la situation de liminalité traduit cette forme de suspension dans laquelle un individu peut se retrouver. Et c'est le cas des personnes en situation de handicap qui se retrouvent du fait de la non-cohabitation, enfin des échanges très restreints qu'il peut y avoir entre le milieu ordinaire et le milieu protégé de travail, se retrouvent dans une situation d'entre-deux au seuil de l'institution, où elle finalement idéalise et rêve une insertion au milieu ordinaire de travail sans que celle-ci ne se fasse réellement.
Très bien. En tout cas, on a bien compris, parce que ça peut paraître un petit peu complexe ou compliqué, pour le moins. Mais on a bien compris, en tout cas, que tout ce que vous cherchez à faire, vous, Ludovic, c'est à créer des ponts donc, entre le monde de l'éducation spécialisée, pour le dire de façon, ou du milieu protégé, et puis le monde de l'entreprise. C'est-à-dire, ce que vous cherchez, c'est à créer un pont qui puisse permettre, en fait, aux personnes rencontrant des difficultés de vie ou un handicap psychique ou mental, de pouvoir intégrer l'entreprise. Et donc, et également, dans l'entreprise, pouvoir permettre la transformation des représentations sociales dominantes afin de pouvoir admettre ces populations qui présentent des fragilités.
C'est ça. Aujourd'hui, il y a un impensé, selon moi. Bien entendu, il y a des relations entre le milieu protégé et les entreprises, mais ces relations sont issues principalement d'obligations qu'ont les entreprises de se conformer à un certain pourcentage d'embauches de travailleurs handicapés. Mais il n'y a pas de réelle réflexion mise en place et de collaboration, on peut dire le mot, entre le milieu protégé et le milieu ordinaire de travail. Il faut bien comprendre que traiter du handicap psychique en entreprise, ce n'est pas simplement se dire « Ok, je dois répondre à une obligation d'embauche de travailleurs handicapés ». Traiter du handicap psychique en entreprise, c'est aussi penser la question de l'intégration des personnes valides et de ce qui pourrait advenir si l'une d'entre elles se retrouvait face à une situation de stress, de burn-out, etc. Donc ça concerne tout un chacun. C'est pas uniquement le milieu protégé d'un côté et l'entreprise de l'autre. C'est vraiment pousser à ce qu'il y ait de véritables négociations, discussions, même avec les syndicats, etc., pour traiter de la question du handicap psychique de manière globale, systémique, et pas uniquement de manière en opérant une dichotomie entre le milieu protégé et le milieu ordinaire de travail.
Ok.
Les enjeux concernent tout un chacun, et pas uniquement les personnes en situation de handicap.
Très bien. Et après ce travail-là, qui est un travail extrêmement documenté, fourni, que je conseille d'ailleurs à chacun de lire, est-ce que vous avez de nouvelles pistes de recherche? Est-ce que vous avez d'autres projets?
Oui, alors je m'interroge toujours sur le handicap en entreprise. Bon, j'ai à cœur de creuser cette question en rencontrant beaucoup plus de managers en entreprise pour avoir une vision un peu différente de celle que j'ai pu avoir lorsque j'étais en milieu protégé. Et que j'ai pu observer comment se construisaient les compétences en milieu protégé. J'aimerais avoir un regard, en tout cas un prisme d'analyse un peu plus fourni en allant voir directement les entreprises. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas certain que je sois accueilli comme il se devrait, puisque, encore une fois, il s'agit d'opérer un véritable virage culturel et de convaincre les entreprises de s'intéresser beaucoup plus au milieu protégé, à la manière dont se construisent les compétences et la façon dont elles pourraient être accompagnées en entreprise.
Quoi les freins? Alors les freins comme ça, les 2-3 freins que vous voyez
Elles sont c'est une question de conviction. Il faut bien comprendre que les entreprises... pour pouvoir s'intéresser à ce sujet-là, doivent y trouver leur intérêt. En tout cas, il faut qu'elles puissent être convaincues que le handicap constitue également une ressource et ne constitue pas simplement une déficience. Qu'il faudrait compenser. Il faudrait que ce virage culturel puisse s'opérer.
Il faudrait dépasser la compassion ou la pitié.
C'est ça.
Ok. Très bien, bah écoutez, nous avons été ravis de vous entendre sur les ondes de Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur. Je rappelle pour tous les auditeurs votre, Votre livre très documenté et que j'engage tout le monde vraiment à lire, c'est « L'insertion professionnelle face au handicap psychique et mental » dans la collection « Éducateur et prévention ». Merci à vous Ludovic et à très bientôt.
Merci à vous.
Down at the reservoir.